Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Renaud, qui est maître de conférence à l'Université Paris 10, maître de conférence en philosophie ancienne, qui vient pour nous présenter son livre « Platon, la médiation des émotions ». Et je lui laisse sans plus attendre la parole.
Merci beaucoup Marion. Donc, je remercie la Société philosophique, je remercie évidemment la librairie Mola de nous accueillir ce soir. Je vais faire une présentation de cet ouvrage. Je vais essayer de le faire à rebours de la manière dont je l'ai écrit. Il s'agit d'une thèse remaniée de philosophie et comme toute thèse, même remaniée, certains chapitres peuvent être un petit peu techniques, parfois aussi arides. Et je vais essayer du coup de vous présenter ce qui m'a animé lorsque j'ai commencé à travailler sur Platon, sur la question des émotions, à rebours, c'est-à-dire à partir de nos propres intérêts philosophiques, on va dire, disons, plus contemporains, en essayant de voir en quoi cette notion d'émotion, on peut, même s'il s'agit d'un anachronisme, l'utiliser dans un corpus antique. Alors, je fais d'abord un rappel lexical tout simple. Émotion n'a absolument aucun équivalent en grec ancien. On pense plutôt au terme de pathos. Pathos, c'est tout simplement une affection, c'est ce qu'on subit. Il peut avoir un sens un peu plus particulier au sens d'un malheur subi. Il peut même avoir, dans certains cas, le sens de maladie, pathos. Et malgré tout, et c'est de cette tradition que nous, même contemporains, nous héritons, il a eu cette destinée qu'on connaît d'être traduit par passion, le terme de passion. Et lorsque nous imaginons le traitement des passions dans l'Antiquité, nous avons immédiatement cette image d'Épinal, des passions irrationnelles dont nous n'avons aucune responsabilité, qui sont des obstacles à l'exercice de la raison et qui auraient été condamné unanimement par ces philosophes grecs comme Platon et Aristote. Bon, ce que j'ai essayé de montrer en fait dans cet ouvrage, c'est que cette image d'Épinal sur les passions dans l'Antiquité n'a pas lieu d'être, ni chez Platon, ni évidemment chez ses successeurs. Alors, pour remettre un petit peu ce problème des passions dans l'Antiquité dans son contexte, on peut partir non pas de Platon, mais plutôt d'Aristote. Je l'indique très succinctement dans l'ouvrage. La notion d'émotion dans l'Antiquité a commencé à susciter un intérêt chez les commentateurs du fait de, à peu près dans les années 70, lorsque de nouvelles théories des émotions ont vu le jour en philosophie, mais plus précisément en psychologie. Et certains commentateurs se sont penchés d'abord sur le corpus aristotélicien pour essayer de présenter ce qu'ils ont appelé une thèse cognitiviste des émotions. Alors très largement, on pourra en discuter plus tard, l'idée très simple défendue par ces commentateurs est d'essayer de montrer qu'il y a quelque chose comme un jugement qui est inclus dans l'émotion qu'on ressent, et même plus précisément qu'un jugement, il s'agit d'un jugement parfois évaluatif, de type souvent moral, et Aristote se serait intéressé en fait à cette classe des passions qui ressemble à nos émotions contemporaines, et en particulier dans un ouvrage qui a suscité un peu plus d'intérêt ces 20 dernières années, qui est la rhétorique d'Aristote, au livre 2, et où Aristote élabore une liste des passions, des pathés, une certaine classe de pathés en tout cas, et qui ressemble à nos émotions contemporaines. Alors, j'ai fait ce rappel parce que, paradoxalement, la notion d'émotion dans le corpus platonicien n'a pas du tout suscité le même intérêt, et tout simplement parce qu'on ne trouve pas chez Platon de système des émotions comme on aime le trouver chez Aristote. Donc il n'y a pas de système, il n'y a pas non plus d'analyse des passions qui ressembleraient à nos émotions, tout simplement aussi pour une raison lexicale. Pour Platon, pathos, ça signifie, comme je l'ai dit en commençant, affection, et il peut y avoir aussi bien des affections du corps que des affections de l'âme et des affections même de type complètement intellectuel. Lorsqu'on connaît, par exemple, lorsque l'âme se saisit des formes intelligibles qui sont l'objet de la connaissance chez Platon, elle pâtit et on a bien le même terme de pathos dans les dialogues platoniciens. Donc en fait, on n'a même pas de prise, si vous voulez, lexicale dans le corpus platonicien pour essayer d'isoler ce que nous reconnaissons comme étant des émotions. Donc, pour vous présenter un petit peu mon projet, je vais essayer d'élaborer à peu près quatre points, si j'ai le temps, surtout en m'attachant à un dialogue que j'ai peut-être un peu moins étudié dans mon livre, qui est le Timée, là aussi, qui est un dialogue assez aride et qui, à travers lequel je vais essayer d'expliquer pourquoi l'anachronisme d'émotion est malgré tout utile pour essayer de comprendre le projet platonicien, même aujourd'hui, hein, concernant ces émotions. Alors, en premier point, je vais rappeler que, bon, c'est une thèse qui n'est pas très, on va dire, qui ne suscite pas beaucoup de controverses chez Platon. En premier point, je vais essayer de montrer que les émotions sont des états, chez Platon, de ce qu'on appelle l'âme incarnée. Donc, qu'est-ce que ça signifie l'âme incarnée chez Platon ? Vous pouvez l'imaginer, Platon défend, affirme très, très, très fortement, et contrairement à Aristote, un dualisme âme-corps dans tous ses dialogues. Dualisme âme-corps, il s'agit de deux substances radicalement séparées, et Platon y insiste beaucoup, du phédon au timée, ces deux substances du coup rendent difficile en fait l'appréhension d'états émotifs qui sont plus mixtes, qui sont à la fois des états du corps. Lorsque je suis en colère, mon sang bouillonne, j'ai la respiration qui suffoque, et en même temps il y a probablement un jugement sur le juste et l'injuste qui accourt dans ce sentiment de colère. Donc le problème est le suivant: comment est-ce qu'on se saisit de ces états affectifs alors même qu'on maintient un dualisme extrêmement fort? Alors dans le Timée, Platon nous donne une réponse. Je vais vous citer un petit texte donc, du Timée 42a-B, où Platon explique, enfin Timée, c'est le personnage Timée qui s'exprime. Timée explique comment apparaissent certaines affections, pathémata, lorsque une âme vient s'implanter dans un corps. Donc je cite le texte. « Maintenant, dit-il, chaque fois que, en vertu de la nécessité, une âme viendrait s'implanter en des corps et que des parties s'ajouteraient au corps où ces âmes seraient incarnées, tandis que d'autres parties s'en détacheraient, un certain nombre de facteurs devraient intervenir dans la nature humaine. D'abord, la sensation devrait de toute nécessité apparaître, la même pour tous les vivants, mise en branle, cette sensation, par des impressions violentes. Elle est connaturelle, cette sensation. En second lieu, le désir, un mélange de plaisir et de souffrance, et en outre, la crainte, la colère et toutes les affections qui s'en suivent et toutes celles qui sont d'une nature contraire. Dominer ces éléments serait vivre dans la justice et être dominé par eux, vivre dans l'injustice. » Donc, dans ce petit extrait, Timée explique que c'est seulement quand l'âme est implantée dans un corps que les émotions, ce que nous appelons émotions, apparaissent. Elles sont, en grec, sumphuton, elles sont conaturelles à l'incarnation d'une âme dans un corps. Et donc on a cette idée que la physis ici, la physis du corps vivant, enfin du vivant, renvoie à ce qu'on appelle un composé. On ne peut pas envisager, si vous voulez, un vivant qui ne serait qu'un corps, ou évidemment, a fortiori, une âme. Un vivant, c'est un corps dont l'âme est le principe de mouvement. Donc les émotions, et c'est mon premier point, sont à la fois des effets, si vous voulez, de la nécessité de l'incarnation, des effets et des réponses à des mouvements sensibles. Timé explique que c'est lorsque certaines parties du corps entrent en choc violent avec moi, ou alors quand j'en perds, que des sensations et des affections sont suscitées. Bon, ben les émotions, c'est d'abord ça. Un peu plus loin, dans le Timé, je cite un autre passage, 69cd, Timé dit ceci. Celle-ci, c'est la partie de l'âme mortelle, porte en elle des affections redoutables et inévitables. D'abord le plaisir, ce grand appât du mal, puis les douleurs qui nous font fuir le bien, puis encore l'audace et la peur, conseillers imprudents. L'emportement, sourd aux avis, l'espérance, facile à séduire. Avec la sensation irraisonnée et le désir prêt à toute entreprise, mélangeant tout cela, en sa nécessaire condition, les démons ont composé l'âme mortelle. Donc les affections, dans ces deux passages, n'ont pas tout à fait le même sens. Dans le premier passage que j'ai commencé par lire, il s'agissait plutôt de mouvements corporels. Dans le deuxième passage, le même terme, pathema, est utilisé pour désigner une classe d'affection dont la couleur est beaucoup plus psychique. À chaque fois, on qualifie l'émotion. L'audace et la peur sont des conseillers imprudents. L'emportement est sourd aux avis. L'espérance est facile à séduire, etc. Donc en fait, dans ces deux passages, Platon nous montre que la manière dont il faudra se saisir de ce que nous reconnaissons comme des émotions, c'est essayer de trouver le lieu de l'âme incarnée ou du corps animé, comme vous préférez, où ces affections sont suscitées, informées par la sensation, informées aussi par le jugement. Donc, si j'ai commencé par essayer de rappeler ce point, que les émotions sont des états de l'âme incarnée, c'est aussi pour répondre à une objection qu'on pourrait faire sur Platon, et qui consiste en la thèse suivante, que finalement, les émotions, ce ne sont pas du tout des états, ce ne sont pas d'abord, si vous voulez, des états du corps, ce sont d'abord des états de la pensée ou d'abord des états de l'âme. Et bien sûr, selon la thèse que nous allons suivre, aussi dans une perspective contemporaine, cela change complètement notre rapport aussi au texte platonicien. Si on considère que l'émotion est d'abord quelque chose qui est suscité, c'est-à-dire une réaction violente de mon état corporel, l'analyse qu'on en fera sera probablement pas cognitive, peut-être qu'on essaiera de reconnaître dans le jugement qui est inclus dans l'émotion un autre principe que celui qui fait l'émotion. Voilà la difficulté. Et c'est vrai que chez Platon, on rencontre le terme de pathos, comme je l'ai dit en introduction, aussi pour désigner des états qui sont exclusivement psychiques et qui apparemment n'ont rien à voir avec le corps. C'est le cas, par exemple, de la connaissance des formes intelligibles. Alors, est-ce que... Bon, on a le même terme pathos, donc il faudra ensuite décider si pathos est un terme générique grec pour désigner ce que nous appelons les émotions. Ici, vous avez un démenti flagrant avec Platon. Les émotions, ce que nous appelons émotions, ce n'est assurément pas le terme pathos en grec. Ça ne peut pas être ça. Donc, c'est probablement une classe des pathés, et cette classe, Timé, le dialogue Timé, les localise dans l'âme incarnée, ou dans le corps animé, mais certainement pas dans l'âme seule. Je rappelais ça aussi parce que si vous lisez Aristote, vous avez une thèse qui est parfaitement différente, puisqu'il critique Platon sur ce point précis dans le premier chapitre du traité de l'âme, ou évidemment dans le livre 2 de la rhétorique. Voilà pour mon premier point. Alors le deuxième point, c'est d'essayer de montrer en quoi les affections sont dites chez Platon irrationnelles. Nous avons donc tous l'image des passions grecques à condamner, précisément parce qu'elles sont irrationnelles. La question est de savoir si cette thèse est justifiée dans le dialogue platonicien, dans les dialogues platoniciens ou non. Donc si je me réfère encore au Timée, oui, Timée affirme et explique en quel sens elles sont, ces pathées, tout à fait irrationnelles. D'abord, nous dit Timée, elles dérivent ces émotions de la sensation, aisthésis. Sans sensation, il n'y a tout simplement pas de colère, ni de peur, ni d'espoir, ni quoi que ce soit. Dans le catalogue que Timée fait dans les deux textes que je vous ai lus tout à l'heure, le catalogue des émotions, c'est d'abord la sensation qui apparaît. Elle est première. Ça nous est confirmé dans d'autres dialogues, dans le Théétète en 156, dans les Lois, où Socrate va parler des plaisirs, des peines, des désirs, des peurs et des choses apparentées qui sont toutes classées sous le même terme de sensation. Donc vous voyez parfois Platon aussi, il ne se contredit pas, mais il donne dans d'autres dialogues une autre définition de ce que nous appelons les émotions, et il les appelle parfois des sensations, ou des impressions selon les traductions. Donc d'abord, sensation. Deuxième élément pour susciter des émotions, et là c'est quelque chose qui nous est peut-être plus étranger, le second élément à apparaître dans la généalogie des émotions, c'est le désir, éros, qu'on traduit parfois par amour. Donc il n'y a pas, encore une fois, d'émotion sans éros, comme s'il était nécessaire, en fait, pour donner à ce que nous appelons émotion sa puissance qu'on va appeler conative, c'est-à-dire de mouvement. Il n'y a pas d'émotion sans reconnaissance de ce qui me manque. Et à partir de la reconnaissance de ce manque, l'émotion est une mise en mouvement du corps animé pour réparer ou pour réagir face à ce manque. Je mentionne cet élément parce que une philosophe contemporaine, Martha Nussbaum, dans ses différents ouvrages, et il y en a un qui vient d'être traduit aux éditions de L'Éclat, il me semble, chez Combat, je me trompe peut-être, qui s'appelle La fragilité du bien, Fragility of Goodness, elle y insiste beaucoup. C'est vraiment la reconnaissance de tous les états affectifs comme reconnaissance de la vulnérabilité du corps animé. Et c'est le cas aussi chez Platon. Donc le second élément à apparaître, c'est le désir, Eros. Donc mêlé à la sensation, vous mêlez le désir ou Eros à la sensation, et à ce moment-là apparaît un troisième élément. Alors c'est très difficile de savoir s'il est différent du premier, enfin du second, pardon, ou non, s'il apparaît en même temps, c'est le plaisir et la douleur. Toute émotion est accompagnée de plaisir et douleur. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver chez Aristote, mais aussi chez les stoïciens, si je ne m'abuse, mais Marion pourrait me corriger. Enfin, dans les Tusculanes, par exemple, de Cicéron. Donc, troisième élément, plaisir et douleur, qui sont, pour Platon, les deux piliers des affections plus complexes que nous nommons émotions. Elles interviendront à chaque fois dans la compréhension d'une émotion, même en tête de liste. C'est pour ça je les appelle des piliers. Donc on comprend assez bien avec ces trois éléments, sensation, désir, plaisir et douleur, comment Platon va dresser une espèce de généalogie pour essayer de comprendre, pour des émotions plus complexes comme la colère ou la jalousie, comment leur entrelacs va susciter telle et telle forme de réaction. Je vous cite un autre petit passage de Timée, 86b, 87a. C'est le passage qu'on a commenté souvent sous le chef des maladies de l'âme, où Timée explique comment les états du corps incarné ou de, oui, de, du corps incarné, du corps animé, pardon, vont produire des états affectifs négatifs et qui vont empêcher l'exercice sain et normal de la raison. Je vous le cite. En effet, quand chez un individu les humeurs provenant de la pituite aigre ou salée, ou celles qui sont acides et bilieuses, après avoir erré dans tout le corps, ne trouvent point d'exutoire au dehors, quand, en roulant au-dedans leurs volutes, elles mêlent et fondent leurs vapeurs au mouvement de l'âme, elles produisent dans l'âme une grande variété de maladies, tantôt plus, tantôt moins grandes. Elles se jettent sur les trois emplacements de l'âme, et selon celui qu'elles attaquent, elles produisent toutes les variétés de la tristesse et du chagrin, toutes les variétés de l'audace et de la lâcheté, et enfin, l'oubli associé à la paresse intellectuelle. Alors, tout n'est pas reconnaissable comme étant des émotions. Enfin, je ne sais pas si vous vous donneriez l'oubli et la paresse intellectuelle dans le catalogue des émotions contemporaines, mais de fait, chez Platon, il les comprend en tout cas sous le même chef. Il s'agit de pathémata, de maladies, au même titre que l'audace et la lâcheté, au même titre que la tristesse et le chagrin, et qui vont donner lieu à des états affectifs complexes. Voilà, ça c'était mon second point. Les affections donc sont irrationnelles. Pourquoi ? Parce qu'elles dérivent, si vous voulez, d'une nécessité, ananke, nécessité des mouvements corporels et des mouvements psychiques, et qui font que lorsque un corps est animé ou une âme est incarnée, elle entre dans le monde et la série des mouvements violents qu'elle subit va provoquer dans son corps, et selon l'exercice que tel et tel individu a bien voulu imposer à son âme et à son corps, elles produisent des états affectifs irrationnels. Mon troisième point explique pourquoi, malgré tout, chez Platon, les émotions héritent de ce que j'appellerais une rationalité dérivée. Pourquoi, finalement, quand même, certaines émotions, et c'est l'objet surtout de mon ouvrage en fait, pourquoi certaines émotions, que j'ai appelées émotions morales, trouvent grâce aux yeux de Platon comme étant ce qu'il appelle des auxiliaires de la raison. Donc dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est vrai que j'ai insisté sur l'origine physique ou physiologique de l'affection. Et cette explication platonicienne, elle tranche beaucoup avec l'explication qu'en donne Aristote dans sa rhétorique, au livre 2, où il insiste, lui, beaucoup plus sur le caractère de représentation qu'il y a dans une émotion, parce qu'une émotion, c'est d'abord, dit Aristote, une forme d'évaluation, du monde environnant. L'exemple... évidemment que j'aime beaucoup, puisque c'est ce qui traduit le terme, enfin c'est une des traductions possibles du terme « thumos » dans l'Antiquité, c'est l'émotion de colère. Dans les dialogues platoniciens, il y a quand même beaucoup de passages où « thumos » peut être traduit par « colère », et c'est une colère irrationnelle, violente, qui vous apparente à une bête sauvage et où vous accentuez sur la bestialité de l'humanité, etc. Alors, pas partout, hein, mais... alors que lorsque vous lisez Aristote, par exemple, en Rhétorique 2, et c'est des passages que, en philosophie contemporaine, on aime beaucoup citer, notamment Martha Nussbaum, la colère apparaît comme quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité à la justice, et où Aristote va déployer tout un arsenal argumentatif pour montrer que l'émotion ne doit certainement pas être condamnée, et que dans certains cas, en tant qu'homme de bien, en tant qu'homme vertueux, non seulement la colère est justifiée, enfin vous pouvez essayer de la justifier, mais, ajoute Aristote, c'est l'état qui est requis pour l'homme vertueux. Si vous n'êtes pas en colère, c'est qu'effectivement il vous manque peut-être une partie de la vertu. Enfin bon, ça se discute hein, chez les aristotéliciens, mais c'est comme ça en tout cas que je comprends. Chez Platon, c'est beaucoup plus difficile de le montrer, mais bon, on peut essayer. Chez Platon, en effet, il y a une dimension qu'on pourrait appeler intrinsèquement cognitive des émotions. Par exemple, dans La République, c'est les textes que j'ai bon, un peu plus longuement étudiés dans l'ouvrage, en République 4. La partie intermédiaire de l'âme, qu'on appelle thumos ou to thumoeides, qu'il est difficile de traduire, on traduit ça par la partie ardente de l'âme, la fonction ardente de l'âme. Dans cette partie intermédiaire, il y a des émotions comme la colère ou la honte, parfois le dégoût, parfois enfin, bon, la sensibilité à l'honneur. Ce sont des émotions qui écoutent la raison, et au sens littéral, hein, c'est le verbe akouain en grec. On écoute la raison. Elle est donc, en tout cas selon certains commentateurs, capable de calcul, en tout cas capable d'appréciation d'une situation. Certains commentateurs ont même essayé de montrer que la partie désirante de l'âme, qui se situe plutôt dans le bas-ventre et qui est liée au plaisir de la faim, de la soif et du désir sexuel, cette partie de l'âme, elle aussi, est capable de calculer. De calculer les meilleurs moyens, par exemple, d'atteindre la fin qu'on s'est donnée. Alors, c'est une théorie assez compliquée de l'identité, enfin en tout cas de l'agent que nous délivre Platon dans La République. En fait, ce qu'on peut essayer de comprendre chez Platon, c'est comment, dans certaines expériences, en particulier affectives et émotives, il y a bien des situations où, en fait, toutes les parties sont mêlées, toutes les parties agissent, si vous voulez. Lorsque je suis en colère, il y a une pensée qui est à l'œuvre et qui est la reconnaissance du juste et de l'injuste. Il y a ce qu'on pourrait appeler, nous, un affect, qui est plutôt le fait que je suis, enfin, j'ai chaud, mon sang bouillonne, je suis capable d'endurer la faim, le froid, bref, tous les obstacles pour essayer de venger l'injustice que je subis. Et puis, il y a probablement aussi dans chaque état mixte comme ça, quelque chose qui est de l'ordre du désir et qui m'engage justement à répondre à ce qui me manque. Alors, l'exemple qui est en fait un exemple compliqué chez Platon, l'exemple qu'on retient tous, c'est l'exemple de Léontios au livre 4 de La République, où il est mu par un désir de regarder des cadavres, hein, sur la place publique, la place d'exécution publique. Et donc c'est en 439, 439, oui, au livre 4 de La République. Et Léontios, en fait, se blâme lui-même d'avoir un tel désir. Et Socrate essaie de montrer que, en fait, la colère et le dégoût qu'il ressent répond d'une certaine manière, moralement, au désir pervers qu'il a de regarder les cadavres. Et Socrate analyse la chose de la manière suivante. La raison informe la partie intermédiaire du fait qu'il faut justement résister à cette partie désirante qui me pousse à produire des actions honteuses. Il y a un exemple beaucoup plus simple au même livre, c'est l'honnête homme, encore une fois, qui subit justice ou injustice, et où Socrate explique tout simplement que il y a bien une colère du juste, hein, et que cette colère du juste, elle agit certes violemment, spontanément, mais que elle est capable d'écouter parfois la raison, et que finalement le fait d'agir par colère est, d'un point de vue pragmatique, beaucoup plus efficace peut-être que de produire un calcul pour atteindre son propre but. Bon, ce que je veux dire en fait, c'est que dans tous les textes cités dans cet ouvrage, Platon, enfin j'essaie de montrer ça, ne dit jamais qu'il y a dans les émotions, enfin ne dit jamais très clairement qu'il y a dans les émotions qu'on ressent quelque chose comme une pensée. Je m'explique. Il y a dans les états affectifs que vous ressentez l'impression qu'il y a de la pensée à l'intérieur même de votre état affectif. Or, le but de Platon, C'est au contraire de produire une analyse telle de votre état affectif et mixte que vous allez pouvoir ensuite distinguer plus précisément ce qui relève de la partie désirante, ce qui relève de la partie intermédiaire et ce qui relève de la partie rationnelle. Je vous lis un petit passage, encore une fois, du Timée 70a, puisque c'est mon fil rouge ce soir. Quant au cœur, dit-il, le nœud des veines et la source du sang qui circule impétueusement à travers tous les membres, ils l'établirent au poste de garde pour que, quand la partie agressive bouillirait de colère, parce que la raison aurait signalé qu'une action injuste se prépare du côté des membres à l'extérieur, ou encore qu'une action injuste trouve son origine dans les appétits à l'intérieur, aussitôt, à travers l'ensemble du réseau de passages étroits, donc les veines, dans tout ce qui circule dans le corps est capable de sensations, tout ce qui est susceptible de percevoir avertissement et menace deviennent dociles et suivent en tout la partie la meilleure, lui permettant d'avoir le contrôle sur tous les membres. Alors, je vais paraphraser un petit peu ce texte. Dans ce texte, en fait, vous avez un petit condensé de la thèse que j'ai essayé de défendre dans l'ouvrage. D'abord, Platon maintient un dualisme très fort entre âme et corps. Et ça, je crois qu'on ne peut pas revenir dessus, même si, enfin, si bien sûr, il y a certains commentateurs essaient de montrer que, au contraire, il y revient, mais dualisme fort entre âme et corps. Dualisme fort, mais ça n'empêche pas Platon, bien évidemment, de trouver un ensemble de passerelles, ou de ce que j'ai appelé d'intermédiaires, pour essayer d'amenuiser l'écart qu'il peut y avoir entre la substance psychique d'une part et la substance corporelle d'autre part. L'exemple du cœur, enfin, c'est l'organe, hein, du cœur, en est un exemple. Le cœur va avoir tout un tas de fonctions physiologiques qui vont être entre le psychique, le purement psychique et le purement physiologique. Donc dualisme fort entre âme et corps. Dualisme fort, encore une fois, entre affect et raison. En effet, dans le texte, vous voyez que la partie agressive bout de colère, Zeseyen to tumoumenos, ça bout. Tumos signifie en grec au départ hein, l'espèce de vapeur qui émane probablement du sang chez les héros homériques. Donc, dualisme fort entre affect d'une part et puis raison, la raison qui, elle seule, avertit qu'il y a justice ou injustice, qui se joue à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, vous avez ce double dualisme, et puis vous avez, malgré tout, l'état affectif qui est mixte, qui est un intermédiaire, métaxu en grec, et qui est capable, justement, de faire le lien entre raison, d'une part, et affect, d'autre part, entre âme et corps, si on veut un autre couple dualiste. Alors, j'insiste un peu sur une expression bizarre que j'ai lue tout à l'heure. L'audace et la peur, par exemple, chez Platon, dans le texte en 69c, sont appelés conseillers peu sages. Si on prête attention à cette expression, en fait, elle apparaît comme un vrai oxymore. Conseiller peu sage, vous avez sumbulo, enfin aphroné sumbulo. Vrai oxymore parce que ça dit bien ce que c'est que ces états mixtes, ce que sont ces états mixtes et paradoxaux. D'abord, la peur et l'audace prétendent influer sur la délibération. Ce sont des conseillers, sumbulo. Alors, on pourrait revenir sur la tradition des conseillers du sage dans toute la tradition politique, mais Platon choisit à dessein ce terme comme si finalement il y avait dans l'assemblée, si vous voulez, de l'âme des affects qui pourraient prendre la parole, comme Cléon, le méchant Cléon dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide au livre 2, non, au livre 3, excusez-moi, livre 3. Et qui intime les Athéniens de partir en guerre contre, enfin, d'écraser les Mytiléniens qui ont fait sécession. et qui invite les Athéniens à exercer leur colère dans toute sa violence pour réprimer cette rébellion. Donc voilà, donc ce sont des conseillers. Et Platon s'empresse d'ajouter que ce sont des conseillers peu sages, affronés. Alors en grec, ça signifie qu'en fait, ils sont dépourvus de capacité à penser, plus qu'ils sont dépourvus de bon sens. Ils sont dépourvus de capacité à penser. C'est comme s'ils étaient finalement incapables d'avoir quelque chose comme une capacité de calculer ou de délibération. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, elles sont enracinées dans la sensation, enracinées dans le stimulus perceptuel. Bon, alors je conclue mon troisième point et puis je ferai une brève conclusion. Les émotions donc sont effectivement irrationnelles, d'abord parce qu'elles dérivent d'une nécessité naturelle, ensuite parce qu'elles empêchent la raison de fonctionner, ça c'est vrai aussi chez Platon, et puis, dernière raison pour laquelle elles sont irrationnelles, parce que quand bien même elles seraient des auxiliaires de la pensée pour agir bien et efficacement et vite, si vous voulez, néanmoins, on ne peut pas faire confiance à l'émotion, comme la peur ou la colère, pour avoir systématiquement la bonne réponse, la bonne doxa, la bonne évaluation, le bon engagement, dans tous les cas. Et Platon est... Enfin, c'est pas du tout un scoop, hein, mais Platon donne à la seule raison la capacité à bien délibérer sur l'ensemble des situations et certainement pas à des états affectifs, quand bien même vous seriez un honnête homme, quand bien même vous auriez été bien éduqué. Si je prends un terme un peu plus technique, ces états affectifs, en fait, nous montrent toujours des exemples contrefactuels de ce qu'on a appelé des vertus imparfaites. C'est une vertu imparfaite. Donc, en conclusion, je vous ai présenté, en fait, ce contre quoi j'ai essayé de lutter dans l'ouvrage, c'est-à-dire sur la définition d'une émotion irrationnelle chez Platon. Mais en fait, je l'ai fait à dessein parce que, plutôt que de prendre la voie très souvent prise, en fait, en philosophie contemporaine à l'égard de la philosophie ancienne, pour essayer de sauver les émotions d'une condamnation antique que j'ai évoquée au début, j'ai rappelé à quel point les émotions pouvaient être irrationnelles chez Platon, aussi parce que finalement le dualisme âme-corps, le dualisme raison-affect, me semble être un modèle en fait alternatif à celui d'Aristote, pour essayer de comprendre tout simplement comment peuvent fonctionner des émotions sans nécessairement leur donner une dimension qu'on appelle cognitive. Et je pense que cette thèse est une des explications possibles de l'intérêt qu'on peut porter à la tripartition de l'âme platonicienne qui est exposée dans la République et dans le Timée, et puis qui est reprise par ailleurs par d'autres philosophes, hein, et notamment par exemple chez Kant, vous avez des reprises parfois de la tripartition en un autre sens. Bon. J'ai essayé en fait de montrer dans mon livre que donc ce thumos, cette partie intermédiaire, était intermédiaire entre trois ordres de choses chez Platon. Donc je l'ai rappelé un petit peu aujourd'hui, entre l'âme et le corps d'abord. Pourquoi ? Parce que ce thumos est à la fois un affect et à la fois le siège d'émotions morales. Il est intermédiaire aussi entre la raison et le désir, dans la République notamment. Et puis il est intermédiaire enfin, et c'est ce sur quoi je vais conclure, entre, et là c'est moins intuitif, entre moi et autrui. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, cet intermédiaire entre moi et autrui, c'est la manière dont vous allez pouvoir comprendre les émotions lorsque elles s'engagent dans un système de valeurs et que et le thumos chez Platon est cette partie de l'âme, cette fonction de l'âme, qui explique pourquoi, étant donné un système de valeurs, je suis capable, en tant qu'individu, en tant que citoyen, de m'engager dans ce système de valeurs, et non seulement du coup de les intérioriser en tant qu'individu, et éventuellement par l'ensemble de mes actions, à les diffuser en tant que norme du bien, de la vertu, pour l'ensemble de la cité à laquelle j'appartiens. En fait, cette conception de l'intermédiaire explique et, à mon avis, résout plusieurs difficultés, et je n'en donnerai que deux. D'abord, ça explique pourquoi, chez Platon, on n'a pas à strictement parler de système des émotions ou de théorie des émotions. Ce serait vain d'essayer d'en chercher une comme chez Aristote. Il n'y en a pas non plus chez Aristote, mais ça, c'est une autre question. Tout simplement parce que chez Platon, les émotions ne forment pas de classe particulière. Tout, en fait, tout état un peu singulier, un peu mixte entre affect, désir et raison est capable de se hisser chez Platon au rang de cet état psychique particulier qui a une importance en termes d'engagement dans telle et telle valeur sociale ou politique. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas une espèce naturelle, les émotions chez Platon, mais c'est un ensemble d'états plus ou moins déterminés. Il y en a qui n'ont pas de nom chez Platon, il le dit parfois dans le Politique, il y a des émotions qui n'ont pas de nom. C'est des états plus ou moins déterminés qui sont finalement conçus de manière fonctionnelle, fonctionnelle au sens où le législateur, le philosophe, l'éducateur va pouvoir s'appuyer sur ces états affectifs pour inviter l'individu à agir en fonction d'une opinion que la loi, à défaut de la raison, aura promue dans la cité. Donc ça, c'est la première difficulté. Il n'y a pas de théorie des émotions. On a une théorie de l'intermédiaire. Donc c'est la différence n'est pas très simple. Et je sais, j'ai eu du mal parfois à me tirer d'affaires aussi avec cette différence. En ce sens, Aristote est beaucoup plus facile à intégrer dans notre perception contemporaine des émotions que Platon. Deuxième difficulté, et je finirai presque là-dessus, avant de vous citer un texte un peu plus long, on comprend pourquoi ce thumos, qui est une sorte d'intraduisible, est à la fois, dans les dialogues, le centre ou le siège, si vous préférez, de certaines émotions. Donc c'est la partie ardente de l'âme dans la République. Donc parfois c'est le centre de certaines émotions, ou le siège de certaines émotions, c'est aussi le nom d'une émotion elle-même. Thumos, dans le corpus, on va dire, classique, c'est la colère, synonyme d'un autre terme grec qui est orgue. Pour ajouter à la difficulté, thumos, et j'essaie de le rappeler un petit peu aussi dans le livre, en fait on a du mal à comprendre Platon si on ne lit pas non plus un peu Homère. Thumos chez Homère, ça ne signifie pas du tout la colère, enfin pas seulement, c'est plutôt l'énergie, et c'est plutôt une espèce de faculté de l'âme, ou pas une partie de l'âme, mais une faculté de l'individu, si vous voulez, à s'engager dans la réalité environnante. Et il y en a plein de facultés chez Homère. Il y a le nous, l'intellect, noos chez Homère. Vous avez les phrenes qui sont, on traduit ça par diaphragme, c'est tout à fait imparfait, mais les phrenes, c'est quelque chose qui calcule, qui est stratège, c'est typiquement la faculté d'Ulysse. Vous avez le thumos qui, lui, est l'espèce de cœur vaillant du héros, et là, c'est plus particulièrement la faculté d'Achille, si je fais des typologies un petit peu rapides. Vous avez d'autres facultés plus intérieures, c'est ce qu'on appelle l'éthore. C'est quelque chose qui est plus intérieur, plus humoral, plus fluide, et qui est plutôt le siège des sentiments de tristesse, etc. Bon, Platon est tout à fait conscient de la variété de ce vocabulaire des facultés de l'âme, enfin des facultés de l'agent, Et pourquoi il prend Thumos? Ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est une des facultés qui est la plus citée par Homère. Elle apparaît plus de 700 fois, bien plus que Psyché, bien plus que Psyché. Et il essaie de l'utiliser pour, enfin, dans tout ce qu'elle a d'énergique, pour essayer de promouvoir les valeurs de la raison. Donc je finirai simplement sur ces derniers mots. J'ai essayé de montrer que le thumos, en fait, était une faculté, si on voulait lui donner une fonction globale dans les dialogues, c'est une faculté de valorisation. Valorisation, c'est ce par quoi je donne de la valeur aux choses. Ce n'est pas une faculté d'évaluation. Évaluation, ça signifierait qu'on est capable de calcul. Non, c'est vraiment quelque chose à travers quoi je donne une valeur à de l'or ou alors à une vertu ou à la connaissance. C'est une faculté de valorisation grâce à laquelle un individu est capable de trouver les ressources psychiques et physiques nécessaires à leur défense, à ces valeurs. Alors je finirai par vous citer un petit texte qui peut parfois, enfin, qui fait un peu peur en fait, sur l'éducation des enfants dans la cité des Magnètes, dans les lois de Platon, et qui ressemble à s'y méprendre à quelque chose comme une manipulation des affects, mais qui dit bien comment Platon considère justement cette théorie de l'intermédiaire, comme si on avait affaire à un chien de Pavlov, pour essayer de manipuler les émotions en faveur de la loi ou de la raison. C'est l'Athénien donc qui parle. À vrai dire, je prétends que chez les enfants, la première sensation, à leur âge, sont le plaisir et la douleur, et que c'est en elles que la vertu et le vice commencent à être présents en l'âme, tandis que la réflexion et les opinions vraies qui présentent de la fermeté, c'est une chance pour quelqu'un d'y parvenir, même lorsqu'il approche de la vieillesse. Quoi qu'il en soit, l'homme qui possède ses biens et tout ce qu'il renferme atteint la perfection. Dès lors, et c'est là où ça commence à faire peur, j'entends par éducation l'éclosion initiale de la vertu chez les enfants. Si le plaisir, l'affection, la douleur et la haine apparaissent comme il faut dans les âmes, avant qu'elles puissent en saisir la raison, et si, lorsqu'elles en ont saisi la raison, elles s'accordent avec la raison, pour prendre des bonnes habitudes sous l'action des habitudes qui conviennent, c'est cet accord qui constitue la vertu dans sa totalité. Mais la partie de cette vertu qui concerne la formation au bon usage des plaisirs et des douleurs, et qui fait que du début jusqu'à la fin, on prend en haine ce qu'il faut prendre en haine, et qu'on chérit ce qu'il faut chérir, cette partie, si après l'avoir isolée par la raison, tu l'appelais éducation, tu aurais raison, à mon avis, de l'appeler ainsi. Donc je voulais terminer par ce texte au sens où voilà, l'Athénien dit que une bonne législation, c'est un ensemble de lois qui, indépendamment de ce qui se produit dans l'âme de l'individu, va faire aimer ce que la loi promeut comme objet d'amour et va susciter les émotions correspondantes pour qu'elle puisse devenir enfin, en tant qu'intermédiaire, auxiliaire de la raison. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Olivier. Pour cette plongée dans, je ne peux plus dire la théorie, mais la question des affects chez Platon, qui montre bien la porosité des émotions et de la rationalité. Alors peut-être je voudrais revenir sur une des thèses de ton livre, plus particulièrement. Donc tu t'intéresses à la question de la conflictualité psychique, de la multiplicité psychique, et il me semble, tu vas me dire si tu es d'accord, que une de tes thèses, c'est de montrer, enfin, consiste à montrer que la tripartition de l'âme, cette image ou représentation d'une âme divisée en trois parties, permet en un sens de renouer avec l'unité en proposant une réappropriation par l'individu lui-même de sa conflictualité. Alors, l'analogie hein, entre l'âme et la cité permet de ce point de vue-là de mettre en place une politique psychique, on pourrait dire. Non seulement une politisation, mais une politique psychique. Et Enfin, de ce point de vue-là, le thumos dont tu viens de parler est le lieu stratégique de cette réappropriation par l'individu de cette conflictualité. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que, comme tu commençais à le dire, finalement, c'est une pensée de l'unité psychique qui laisse une place à la conflictualité. Même si le conflit est soldé, en un sens, il est toujours latent. Et de ce point de vue-là, je voudrais te poser la question, enfin, comment concilier cette image, cette topique, on va dire, de l'intérieur, avec une autre représentation qu'on trouve dans un texte du Timé, au livre 9, hein, tu n'as pas cité le texte, de République, pardon, oui. Livre 9 du Timé, non, livre 9 de la République, où Platon, justement, au sein d'une analyse sur les rapports entre la justice et l'injustice, propose une image de l'âme comme cet assemblage complètement hétérogène avec, alors c'est un monstre, c'est ça, si je me souviens bien, polycéphale, un lion qui représente le thumos, donc le monstre pour le désir, le lion pour le thumos et l'homme intérieur pour le nous, la raison. Et de ce point de vue-là, le lion est l'allié du nous, mais il s'agit moins d'être gouverné par soi que d'être gouverné en soi par cette partie rationnelle. Donc il me semble qu'on n'est pas tout à fait dans le même schéma que celui du thumos qui apparaît comme cette fonction intermédiaire unifiante qui d'ailleurs ferait penser au moi freudien finalement en un sens. Donc là on a quelque chose d'assez différent au sens où l'unité, c'est une unité de conciliation, mais qui arrive après coup, qui d'ailleurs dans l'image est celle, enfin on la représente à partir d'une gaine ou d'un sac qui vient recouvrir cette multiplicité. Donc finalement, à quoi elle tient? C'est la question. Et ça me faisait penser à un autre texte du Timé, que tu n'as pas cité pour le coup, mais qui présente le nous comme ce daimon, comme si finalement en soi, ce qui dirige, ce qui gouverne, puisqu'il s'agit d'une question de gouvernance, c'est quelque chose de radicalement étranger.
Bon, merci pour toutes ces questions. Elles sont évidemment compliquées. Je vais commencer par peut-être rappeler plutôt un des usages en fait de la tripartition et puis éventuellement de ses mésusages. C'est vrai que quand on pense à la tripartition de l'âme chez Platon, ben, on a l'image effectivement d'un moi multiple. Certains ont même été jusqu'à dire qu'il s'agissait d'une thèse qui présentait finalement l'agent, l'unité de l'agent, en autant de petits agents, ce qu'on appelle des homoncules, qui seraient chacun doués de telle et telle faculté en vue de l'action. Et effectivement, on a un problème qui est celui de l'unité de l'agent. Bon, il me semble qu'en fait, c'est un problème... Bon, d'abord, c'est un problème qui est rétrospectif, je crois, et qui nous vient probablement de lectures aristotéliciennes sur Platon, où on s'est dit, bon, est-ce que avec cette tripartition de l'âme chez Platon, on n'a pas effectivement un moi qui est parfaitement éclaté? Ce n'est pas le cas, effectivement, quand on regarde les textes. Alors, le premier texte que tu as cité, c'est République 4. C'est vrai qu'on a... des exemples chez Platon d'images, enfin de représentations en fait de la conflictualité psychique, du conflit psychique, mais on le ressent tous nous-mêmes avec une émotion où l'agent est capable de se dédoubler, de se tripler même si on veut, plutôt se dédoubler tout court, pas tripler, et où on a une voie d'action possible contre une autre voie d'action possible. C'est ce qui se passe dans l'âme de Léontios, où il se parle à lui-même, enfin il parle à son cœur, pardon, sa partie intermédiaire parle à sa partie désirante, comme si un agent parlait à un autre agent. Bon, effectivement, cette présentation de la conflictualité, elle nous vient, à mon sens, tout droit de l'épopée et évidemment de la tragédie grecque, où finalement c'est une manière de représenter la conflictualité psychique et puis éventuellement certains dilemmes, pas moraux, mais en tout cas des dilemmes d'action. Chez Homère, par exemple, vous pouvez être, enfin, le thumos peut être complètement contre les plantes des Phrénès, selon, enfin, pour une action purement stratégique, dépourvue complètement de valeur morale. Donc ça, c'est le premier point. C'est vrai que Platon fait place à de la conflictualité psychique au sein même d'une unité de l'agent. C'est pas parce que je me divise pour évaluer le cours de mes actions que je suis que mon unité d'agent est menacée. Alors ensuite, tu mentionnes quand même un modèle qui est beaucoup plus grave, quoi, que le premier, et qui n'est pas visiblement simplement une métaphore, bien qu'on utilise des métaphores, c'est que tout homme est effectivement composé d'une hydre polycéphale, d'un lion, qui par ailleurs est plutôt agressif dans le livre 9, plus qu'auxiliaire. Il y a un problème de texte d'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est un lion ou c'est un serpent. Et puis effectivement, un homme où cet homme doit prendre absolument le contrôle de l'âme tout entière. Bon, j'ai malgré tout envie de répondre, enfin de filer en fait ma première thèse, à savoir que, encore une fois, il s'agit d'une représentation, alors pas nécessairement de partie de l'âme. Mais plutôt de genre de vie et au sens où il ne s'agit pas, comme dans le livre 4, de voir quel est le meilleur cours de l'action en fonction de telle et telle situation. Il s'agit vraiment de décider, là, cette fois, pour l'ensemble de mes motivations, à qui je remets le pouvoir. Alors, si on prend le lion pour le thumos, là encore une fois, ce n'est pas un hasard. C'est au livre, au chant 17 de l'Iliade, Apollon accuse Achille d'avoir un thumos qui est absolument comme celui des lions et qui est insensible et qui dépèce les charmants troupeaux de moutons sans pitié, ni miséricorde, ni quoi que ce soit. Donc, un thumos complètement adamantin. Et effectivement, il s'agit. Dans cette ligne-là, pour Platon, de promouvoir le règne de la raison. Alors, tu as rappelé que c'était au livre 9. Le livre 9, dans le cadre de l'analogie de l'âme et de la cité, c'est effectivement à qui on donne le pouvoir. Et malheureusement, chez le tyran, c'est sa partie désirante. Chez les timocrates, c'est leur partie intermédiaire. Chez tous les autres, c'est la partie désirante, d'ailleurs, avec des modalités un peu différentes. Il n'y a que le philosophe qui ne soit pas en conflit, jamais en conflit avec lui-même. Et du coup, c'est la dernière partie de ma réponse. Tu évoques un dernier modèle, oui, en République 9. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai tendance à dire que c'est quand même une métaphore, mais il est vrai que chez Platon, conformément au dualisme qu'il affirme tout au long de son œuvre, il est vrai que il y a des facultés, une faculté qui est parfaitement séparée du corps, séparée et séparable du corps, c'est le nous, c'est l'intellect. Dans le timé, l'intellect, une fois que vous mourrez, l'intellect s'en va rejoindre l'étoile qui lui était associée. Donc indépendamment du corps qui lui avait été, enfin, qui lui a été échu ici-bas. Donc cette partie est complètement séparable, impérissable, éternelle, etc. La partie intermédiaire et la partie désirante, elles sont dites dans le timé mortelles. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus, alors moi j'interprète ça comme ça veut dire qu'elles n'ont plus tout simplement aucune fonction. Elles n'ont plus aucune utilité, donc elles sont en un sens mortelles. Et il est bien évident que dès qu'on se réincarne, on en a besoin pour faire fonctionner le corps vivant. Donc c'était ça, la dernière partie de ma réponse, c'est, bon, il faut donner le pouvoir à la raison, il est vrai qu'il y a des parties parfaitement séparables, et que c'est vers cette partie qu'on doit se diriger pour essayer de régler nos vies, précisément parce qu'elle est séparable, parce que, de fait, la vertu chez Platon, c'est pas une question d'individu. C'est vraiment une question disons, de rationalité, on va dire universelle. Et du coup, la théorie des facultés, en fait, n'est pas tout à fait la même chose que la théorie des parties de l'âme, on va dire ça comme ça.
Nous allons remercier chaleureusement Olivier Renaud. Merci.